Tout compte. Bonjour à tous pour cette seconde chronique Tout compte, consacrée aujourd'hui à la notion de préférence nationale. Mais avant, je vais vous lire le texte de présentation de la chronique Tout compte pour que vous puissiez en connaître l'esprit. Elle joue sur un double sens, tout contre soi, ce qui nous est proche, ce qui nous importe, ce qui nous est nécessaire. Tout compte ce à quoi on s'oppose énergiquement, à toutes les formes d'extrémisme et d'autoritarisme. Cette chronique est éminemment politique, car elle entend s'attaquer à toute pensée extrémiste et totalitaire, en s'appuyant sur un référentiel précis dont les sources seront indiquées, afin que chacun puisse y recourir pour se forger sa propre idée. Elle est éminemment tournée vers une vision positive d'un monde qui prend soin de l'autre, des autres, et assume la nécessité du respect de la Terre, de l'univers auquel nous appartenons tous. Elle se construira autour de notes de lecture synthétiques et de faits d'actualité que je commenterai en commençant par la périphrase « il me semble » afin de bien dissocier la description du contenu des sources de mon commentaire. Ce commentaire sera politiquement engagé mais humble, d'une part parce que le savoir est trop vaste pour avoir la prétention de pouvoir l'appréhender, et d'autre part parce qu'il n'est opérant que dans le dialogue avec les autres. Il est un outil, et non une vérité, qui permet à chacun de se définir par rapport aux autres, de se positionner vis-à-vis du monde, et de créer les conditions d'une vie sociale saine et apaisée. La chronique ne pourra excéder 15 minutes. Elle pourra comprendre un ou plusieurs sujets. Un seul sujet pourra se développer en plusieurs chroniques. Revenons à notre sujet du jour, la préférence nationale. Le tract de chez Gallimard que Gérard Noiriel y consacre sera le fondement de notre chronique. Il s'agit d'une publication d'un petit fascicule écrit par des différentes femmes et hommes de lettres pour nourrir les débats de notre société, afin de s'en remettre au temps de la réflexion critique et d'éviter que les décisions ne soient guidées par l'émotion. Le numéro 55 de mars 2024 de Tract, rédigé par Gérard Noiriel, s'intitule « Préférence nationale, leçon d'histoire à l'usage des contemporains ». Son texte se divise en quatre parties. La première, il montre que la question de l'immigration et celle de la préférence nationale réapparaissent dès que l'économie est en crise et disparaît ou se font discrètes dès que l'économie est en essor. Depuis les années 1860, l'industrie a eu massivement recours à la main-d'œuvre étrangère, mais lors de la Grande Dépression qui a suivi le krach de la bande catholique l'Union Générale en 1882, l'immigration devient un problème. C'est un député, membre de la gauche radicale du département de l'Ain, Christophe Pradon, qui proposa d'élargir les mesures protectionnistes de taxation des produits étrangers à une taxe pour les travailleurs étrangers. Son argument développe trois points : la sécurité nationale qui serait menacée, des immigrés qui ne veulent pas s'intégrer, et une aggravation du chômage des Français, idée répandue, mais erronée, que les étrangers viennent prendre le travail des Français. L'écho de sa position se vit amplifié par le boom de la presse de masse. De 1880 à 1910, le nombre de journaux vendus est passé de 1,5 million à 10 millions pour une population de 20 millions d'adultes. Comme le dit Gérard Noiriel, les journalistes réalisèrent que pour intéresser de nouveaux lecteurs, qui, dans leur grande majorité, étaient issus des classes populaires, ils devaient leur raconter l'actualité en mettant en scène des personnages auxquels les citoyens puissent s'identifier. C'est ainsi que le « nous français » s'imposa par opposition aux « eux étrangers ». Il cite Émile Zola dans « Le journalisme », le Figaro supplément littéraire du 14 novembre 1888, je cite « Aujourd'hui, vous remarquerez quelle importance démesurée prend le moindre fait. Des centaines de journaux le publient à la fois, le commentent et l'amplifient. De là, des secousses continuelles dans le public qui se propagent d'un bout à l'autre du pays. Quand une affaire est finie, une nouvelle commence, car les journaux ne peuvent vivre sans cette existence de casse-cou. Si des sujets d'émotion manquent, ils en inventent. C'est un régime de secousses incessantes qui me paraît mauvais, car chez eux, qui vivent dans l'attente effrénée de catastrophes, l'équilibre de la saine raison semble détruit, le contre-coup des événements est disproportionnel. Et l'on en arrive à se demander avec anxiété si, dans des circonstances véritablement décisives, nous retrouverions le sang-froid nécessaire aux grands actes. Il y a eu une soixantaine de projets de taxation des travailleurs étrangers entre le milieu 1880 et 1914. Aucun ne put aboutir, car ils étaient contraires aux traités que la France avait signés auparavant avec les pays voisins. Cependant, le décret du 2 octobre 1888, confirmé par la loi du 8 août 1893, impose aux travailleurs étrangers de se faire enregistrer sur leur lieu de résidence, l'ancêtre de la carte de séjour. Les étrangers expulsés du territoire national, mais revenus illégalement en France, seront condamnés à des peines d'un à six mois de prison. Pourquoi un député de la gauche radicale est-il l'instigateur de cette notion de la préférence nationale ? Simplement parce que la défense de la nation, jusque dans les années 1880, était un thème de la gauche. La droite monarchique s'opposait à la République, considérée comme fille de la Révolution. Mais à cette date, elle se rallie au régime républicain et va s'approprier progressivement le discours national et le thème de la préférence nationale. Maurice Barrès fut élu député de Nancy en 1893 avec un programme intitulé « Contre les étrangers ». Pour défendre les travailleurs lorrains. De plus, le mot d'ordre internationaliste et communiste « Travailleurs de tout pays, unissez-vous », encore défendu par Jules Gued, qui dirige le Parti ouvrier français, va se voir combattu par le discours national, porté par la droite. Puis, après cette période de crise des années 1880, il faut attendre la crise de 1929 pour voir réapparaître cette notion de préférence nationale. Dans sa seconde partie, l'auteur débute en écrivant « Alors que l'immigration avait été invisible au moment même où elle avait atteint son paroxysme, parce qu'il fallait combler les déficits du monde du travail, elle redevint un problème dès le début des années 1930. Le parti radical centriste, au début des années 30, mit en place une plus grande sévérité des contrôles, refusant le renouvellement des cartes de travail dans les branches où le chômage s'aggravait. Mais l'extrême droite en dénonce le laxisme et un article de l'Ami du Peuple de décembre 1931 dénonce « Les Rastaquouères qui exercent indûment une profession chez nous alors que nos nationaux crèvent de faim ». La loi du 10 août 1932 met en place des quotas de travailleurs étrangers en fonction des besoins de l'économie française. Elle est votée à une large majorité des députés conservateurs et du centre-gauche. Mais la loi n'obtint que des résultats minimes car le besoin de main-d'œuvre immigrée se maintenait et ne parvint pas à résoudre le problème de l'immigration, ce qui permit à la droite réactionnaire de faire de la surenchère en demandant un traitement plus sévère vis-à-vis des émigrés. D'autant que les faits divers concernant les violences commises par des étrangers attisaient la colère des Français. Paul Doumer, président de la République française, est assassiné par un Russe, Paul Gourgoulov, et Louis Barthou, ministre des Affaires étrangères, est tué lors d'un attentat commis par un terroriste croate contre le roi de Yougoslavie. Les escroqueries financières de Stavinsky, un juif d'origine ukrainienne, amplifiées par la presse, attisa le ressentiment contre l'étranger. La politique du nouveau chef d'État, Pierre-Étienne Flandrin, le leader de la droite libérale, déclarait en novembre 1934, que la priorité aux Français sur le marché du travail ne peut soulever aucune objection. Par là, nous avons voulu témoigner à la classe ouvrière que l'union des partis républicains ne peut jouer qu'à son profit. Bien sûr, cette idée de croire que le problème de l'immigration allait résoudre la crise économique était une hérésie, et en juin 1935, Laval remplaça Flandrin et renforça la politique visant à réduire l'immigration. Après le Front populaire de 1936, la situation économique ne s'améliorant pas, le gouvernement Daladier, leader du parti radical, donc centriste, aggrava considérablement la situation des étrangers en édictant les décrets-lois adoptés en mai et novembre 1938. À nouveau, l'extrême droite plaidait pour enrayer le laxisme du régime. Le colonel de la Roque, dirigeant le Parti social français, fondé en 1936, dans son livre intitulé « Service public », écrivait « Et voici que le racisme hitlérien, combiné avec notre folle sensiblerie, nous condamne à héberger une foule grouillante, virulente, d'outlaws, que rien ne garantit. Voici que parmi ces derniers, de nombreux îlots se constituent pour lesquels la persécution nazie n'est qu'une couverture d'espionnage et de conspiration. Il me semble que la force de l'idée de nation qui se construit durant ce siècle, contemporaine de l'instauration de la démocratie, de la République, face à l'Ancien Régime, la monarchie, et de l'essor du système capitaliste, l'emporte sur la vision internationaliste du Parti communiste, même auprès des ouvriers. Dès lors, la gauche républicaine va initier cette notion de préférence nationale au motif que la nation est celle des Français, et que même si l'on défend le mot d'ordre démocratique, liberté, égalité, fraternité, même s'il a une visée universaliste, il ne s'applique pas aux étrangers sur le sol français. Le paradoxe défense de l'universalisme révolutionnaire et défense du peuple français se double d'un autre paradoxe qui irrigue ce problème de l'immigration, utilité d'une main-d'œuvre immigrée lors des périodes de l'essor de l'économie capitaliste, rejet de cette même main-d'œuvre en période de crise. Peut-être ces deux paradoxes sont-ils liés à un pragmatisme économique plus qu'à une pensée politique. S'expliquerait peut-être ainsi que pour les conservateurs libéraux modérés, le problème de l'immigration est juste une tentative de répondre à une régulation de la main-d'œuvre, et qu'il serait pour les extrémistes de droite un slogan électoral pour accéder au pouvoir. L'auteur conclut « La préférence nationale, au sens large du terme, est apparue alors comme une évidence pour l'immense majorité des citoyens. L'existence même d'un peuple souverain suppose en effet que les nationaux aient des droits que les étrangers n'ont pas. Tous les Français ont fini par intérioriser comme une dimension essentielle de leur identité ce critère national, parce qu'il est alimenté tous les jours dans l'espace public par les moyens de communication. Même s'ils ne sont pas tous nationalistes, ils véhiculent tous une vision du monde sous l'angle privilégiant le « nous français ». Dans cette perspective, le contrôle des frontières et par conséquent la maîtrise des flux migratoires ne sont pas en contradiction avec les grands principes de la démocratie. Ce qu'il faut interroger, c'est l'hyper-politisation du problème de l'immigration exploité par la droite et l'extrême droite pour masquer des questions qui sont, le plus souvent, d'ordre socio-économique. La politique de préférence nationale mise en œuvre par la Troisième République a contribué au développement de la xénophobie, de l'antisémitisme et du racisme. Au cours des années 1930, les polémiques sur le problème de l'immigration ont alimenté, comme on vient de le voir, un engrenage fatal. Étant donné qu'aucune des lois adoptées pour régler ce problème n'a permis de résoudre la crise économique et sociale dans laquelle la France était plongée, le Parti radical a glissé dès 1934 sur la pente qui l'a conduit à reprendre à son compte une grande partie du programme de l'extrême droite. Et comme les électeurs préfèrent toujours l'original à la copie, c'est l'une des causes qui ont précipité l'effondrement de la Troisième République. Il me semble que s'il y a glissement, c'est dû en partie parce que les partis modérés se voient pris dans un double piège. Premièrement, comment légitimer une politique qui défend le citoyen français sans qu'elle soit une politique nationaliste qui oppose le « nous français » au « eux étrangers ». Deuxièmement, comment mener une politique qui gère pragmatiquement les équilibres de fonctionnement d'une société et d'un système économique sans entrer dans le rejet et la haine de l'étranger. La fameuse formule de Michel Rocard « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde » nous livre une vision plus pragmatique que politique, sans s'attaquer au slogan opportuniste de l'extrême droite. Pour résoudre ces paradoxes qui sont à l'œuvre encore aujourd'hui, notamment avec la loi « Asile et immigration » votée le 19 décembre 2023, et rompre avec la dynamique de slogans fallacieux, il faudrait avoir le courage d'affirmer le principe de la positivité de l'immigration, cesser de traiter l'étranger comme une variable d'ajustement du système capitaliste, cesser de dresser les Français contre les étrangers. Et il faudrait reconnaître la nécessité pour toute société de devoir préserver ses équilibres, donc d'assumer la régulation des flux migratoires, mais une régulation clairement définie et respectant l'autre, sans distinction d'origine. Il est clair, comme la presse de masse favorise le recours à l'émotion plus qu'à la réflexion, une immigration de masse favorise la xénophobie plutôt que l'accueil respectueux de l'immigré. Peut-être nous devrions avoir le courage de défendre clairement nos équilibres, comme l'ont fait certaines sociétés en pratiquant une régulation des naissances pour préserver les fragiles conditions du maintien du vivant de la communauté. Dans son livre « L'effondrement », Jared Diamond mentionne dans la petite île de Tikopia, située dans le Pacifique, que ses habitants veillaient à ne jamais augmenter sa population en pratiquant différentes méthodes de régulation des naissances, dont l'infanticide. Ainsi, la vie des hommes sur cette île, isolée de tout, a pu se maintenir durant des siècles. La décision était collective et connue de tous. Dans la prochaine chronique, nous aborderons la troisième et la quatrième partie de cet écrit, Trac numéro 55 de Gérard Noriel.